Voilà, bienvenue aussi de mon côté à chacun pour ce culte. Ça sera un culte qui aura la particularité que le message sera entrecoupé de chants. Ça donnera, d'habitude on fait un temps de louange, on fait comme ça un peu des séquences. Ça sera plus un peu imbriqué ce soir. Des temps de méditation entrecoupés de chants. Et... C'est en principe un culte mission, on est le premier dimanche du mois de décembre, le premier dimanche de l'Avent aussi, hein, comme on le sait tous. Donc il n'y aura pas de projet missionnel de notre paroisse qui sera présenté. Mais est-ce que notre écoute de Dieu et notre louange ne font pas aussi partie de notre mission ? Hein, finalement, on parle beaucoup ces temps d'être être missionnel, donc partager l'Évangile autour de nous, dans notre lieu professionnel, dans nos lieux de vie, avec nos amis, dans nos loisirs. Donc il y a bien sûr ce grand commandement fait de toutes les nations des disciples qu'on connaît bien. Mais je pense que notre mission n'aura réellement un impact que dans la mesure où nous aimons en premier Dieu, et puis et dans la mesure aussi où ce Dieu, nous l'adorons, nous le louons, et que cela attire aussi d'autres personnes à découvrir Dieu. Il y a un chant qui dit, c'est un chant d'Exo, qui dit « Je suis né pour te louer ». Vous connaissez ce chant? Ça vous dit quelque chose? C'est assez dingue, « Je suis né pour te louer ». Je ne suis pas né pour travailler, je ne suis pas né pour aller à l'église. Je prends volontairement un peu, un peu des extrêmes peut-être, ou des choses, dit, mais je suis né pour louer Dieu. Et je pense vraiment que Dieu nous a créés en premier pour le louer, pour qu'on soit comme des enfants devant leur père, admiratifs, qui sont là avec lui. Et ce soir, nous allons donc prendre aussi des chants qui vont d'une part aussi illustrer, mais aussi nous faire entrer dans ce que Dieu veut nous dire à travers le message. Ça sera un message en quatre actes ou quatre parties autour de deux versets qui se répètent aussi à quatre reprises dans un psaume. C'est le psaume 107, donc ceux qui veulent déjà y accéder par leur Bible, par leur application, c'est autour du psaume 107 qu'on va méditer ce soir. La bonté de l'Éternel, elle traverse tout ce psaume, et pour chacun de ces quatre parties, nous allons aussi nous demander, mais comment se décline et se manifeste la bonté de Dieu dans notre vie? On dit que Dieu est bon. Alors ok, mais comment concrètement? Et ce psaume va nous donner des pistes aussi intéressantes et qu'on puisse aussi, avec ces quatre réponses, ce seront aussi un peu comme des perles ou des quelque chose qu'on aura ressorti de ce psaume, qu'on va pouvoir prendre avec. Hein, des perles, on les prend avec, on les garde. Vous pouvez alors faire ce que vous voulez, vous pouvez les garder, vous pouvez les partager, vous pouvez les valoriser. Mais surtout, ne les enterrez pas. Hein. Ça fait penser à cette parabole où quelqu'un a reçu une perle et il allait ouvrir un trésor et puis il a reçu de l'argent plutôt, hein, puis il l'a enterré. Donc quand on reçoit des perles du Seigneur, quand on reçoit des paroles du Seigneur, j'ai envie de dire qu'on a une responsabilité d'en faire quelque chose. Pas juste, voilà, c'est bon, j'ai entendu. Donc je vous invite aussi à ouvrir vos oreilles à ce que Dieu veut vous dire ce soir. J'espère que vous allez aussi, à travers le chant, les paroles, ça aide aussi des fois à retenir, à mémoriser. Il semble que notre capacité de mémoire, elle est quand même assez limitée. Quand on entend quelque chose, une heure après, je ne sais pas ce qu'on retient d'un message, par exemple, il semble que c'est assez faible. Donc, je vais essayer de rendre le message aussi suffisamment intéressant pour que vous reteniez quelque chose. Mais à travers les chants, à travers le fait que vous chantez aussi avec, c'est vous qui allez aussi vous exprimer. Ce n'est pas que moi qui vais parler, et puis vous êtes des auditeurs, consommateurs. Puis à la fin, bon, ouais, voilà, j'ai retenu peut-être quelque chose ou pas. Et une heure après, tu as retenu quoi? Bon, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est que quand Dieu nous parle, hein, et vraiment qu'on en fasse quelque chose. Combien de fois, hein, Dieu dans la Bible a dit « souvenez-vous, souvenez-vous ». Pourquoi il dit toujours ça à Dieu? Parce qu'on a, je pense, un peu la mémoire courte. Et respectivement, ce que Dieu nous dit a vite tendance à être couvert par d'autres choses qui viennent. Et les paroles de Dieu sont souvent quelque chose qui ont besoin d'entrer dans le cœur, ont besoin de faire un travail, ont besoin de prendre du temps, et ça met du temps, et tout à coup, quelque chose germe de nouveau dans nos vies, ou quelque chose de différent, ou une guérison, etc. quoi. Donc soyons attentifs aussi à ce que le Seigneur veut nous partager ce soir. Alors on va lire le psaume 107, que je vais lire. Pour l'instant, c'est juste, je vous invite à l'écouter. Il a la particularité, ce psaume, il n'a pas d'auteur connu. Il y en a quelques-uns, c'est pas d'auteur connu. Il n'a pas de destinataire connu, parce que des fois, c'est écrit au chef de cœur, donc on l'adresse à quelqu'un. Pas de destinataire connu. Pas de circonstances particulières. Certains psaumes disent que c'est quand David est revenu de guerre, etc. Donc, on ne sait pas dans quelles circonstances ce psaume a été écrit. Et avec ces particularités, on arrive peut-être encore mieux à s'identifier avec celui qui a écrit. Ce n'est pas un David, ce n'est pas un Moïse, ce n'est pas Asaph, ce n'est pas ces grandes personnes de la Bible. Et respectivement aussi avec les destinataires du psaume. C'est monsieur et madame tout le monde, c'est nous ici réunis, dans notre contexte communautaire spécifique. C'est nous qui recevons ce psaume ce soir. Il nous est adressé, même qu'il a été écrit il y a bien longtemps en arrière, bien sûr. Donc accueillons ce texte pour nous aujourd'hui, dans nos circonstances, ici et maintenant, et laissons-le aussi nous parler. Est-ce qu'on pourrait mettre le PowerPoint, s'il vous plaît, en route ? Voilà, tu peux avancer jusqu'à la slide 2, tu peux mettre. Alors le psaume 107, je vais le lire dans la version second 21. Louez l'Éternel car il est bon, oui sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Ils erraient dans le désert en chemin dans les lieux arides sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en zones arides, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en sources d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Nous allons prendre un premier chant, un peu un chant d'ouverture, qui est basé sur ces trois premiers versets. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Est-ce qu'on peut mettre la slide Voilà, la slide ouverture. La slide 3, voilà. Donc on a été rachetés du pouvoir de l'ennemi. Hein, ce rachat qui passait par des sacrifices réguliers. Dans l'Ancien Testament, on tuait des animaux pour avoir le pardon des péchés. C'est Jésus, sa mort à la croix, qu'il a acquis pour nous. C'est un rachat dont Dieu est l'initiateur, car il savait que l'homme ne pouvait pas s'en sortir seul. C'est aussi lui qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes son Église qui se rappelle ce soir que Dieu est l'Éternel. Très souvent dans la Bible, l'Ancien Testament parle de l'Éternel. Et simplement, ce qualificatif de Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est éternel. Non seulement il est éternel, mais il nous a dit que sa bonté aussi est éternelle. On va prendre ce premier chant qu'on a appris récemment lors du culte d'inauguration ici dans le temple, qui s'appelle « Comment ne pas te louer ?». Je vous invite à vous lever. Il y a aussi un couplet qui avait été composé, je ne sais pas si c'était Sven ou Liliane ou Dominique, il y avait un couplet qui nous avait été offert sur Versois. Alors on va aussi le reprendre ce soir. Comment ne pas le louer ? Autour de moi, ça c'est la même chose que le deuxième. Ensuite on dit l'église de Versois, alors je dis merci Seigneur. Ben, je vous invite à vous regarder les uns les autres et vous dire on est l'église de Versois. Alors c'est l'église avec un grand E, donc il n'y a pas que nous, il y a ceux qui se réunissent le matin ici, il y a ceux qui se réunissent dans l'église catholique, c'est les chrétiens de l'église de Versois avec un grand E. On est un échantillon, j'ai envie de dire, une partie de l'église Versois. Et on va prendre ce couplet. Quand je regarde autour de moi l'église de Versois, alors je dis merci Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus.
non, on prend le couplet. Quand je regarde autour de moi, l'église ne fait que soi. Alors je dis merci Seigneur, comment ne pas te louer.
Ils erraient dans le désert, en chemin, dans des lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Voilà ce premier acte, cette première partie qui nous parle de cette bonté qui comble nos besoins d'êtres humains créés par Dieu. On parle ici de désert et le désert, ben, c'est un lieu typique où on peut se perdre. On n'a pas de point de repère, c'est assez particulier, on n'a pas de ressources pour vivre. C'est recommandé de prendre avec soi des choses parce qu'on peut espérer peut-être trouver un oasis, mais c'est risqué. Donc il faut prendre des ressources, c'est un lieu hostile. Et le psalmiste ici qui parle de ça, il fait certainement référence à ce que le peuple d'Israël a aussi vécu en sortant d'Égypte, en traversant aussi le désert. Et une des manifestations de la bonté de Dieu est de nous conduire par un chemin droit. Vous avez bien lu, par un chemin droit, donc pas de détour, hein, vers un lieu où on puisse se poser. J'ai parfois l'impression qu'on fait des détours. Israël a fait ça, ils ont tourné en rond même. Et là, il nous prend dans le désert, il nous conduit, il ne nous cherche pas à rester plus longtemps que nécessaire dans le désert. Il veut nous faire grandir, avancer, aller vers des lieux qui sont plus fertiles que le désert et un chemin droit. Là, on pourra, comme c'est écrit, habiter, se désaltérer, se nourrir, bref, et être comblé de biens divers. Depuis des besoins fondamentaux, simplement de pouvoir manger, pouvoir boire, jusqu'à des besoins spirituels qui nourrissent notre cœur et notre âme. Il y a un certain Maslow qui a une fois parlé des besoins de l'être humain. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Elle dit que finalement, on a les premiers besoins, c'est de manger, de boire, d'être protégé. Et après, ça monte jusqu'à des besoins plus, j'ai envie de dire, moins corporels, plus jusqu'à des besoins spirituels. Et puis que dire finalement, si les besoins primaires ne sont pas comblés, c'est difficile de voir les besoins aussi en dessous. C'est comme quelque chose qui s'ajoutait. Et je pense ici dans nos sociétés, ben, je pense que tous ces besoins de base en général sont couverts. Donc on a vraiment des besoins qui sont de l'ordre aussi du sens, du spirituel. Et c'est ce que Dieu veut aussi dans sa bonté nous accorder. L'angoisse, hein, elle est mentionnée ici. À plusieurs reprises, on parle d'angoisse dans ce psaume. C'est mentionné ici la première fois, c'est une émotion forte, hein, l'angoisse. Elle fait partie de toutes ces émotions de la famille des peurs qui sont là et qui ont tout l'effet de nous enfermer, qui ont tout l'effet de nous arrêter, de ne plus voir un avenir. Et ça peut même aller à un moment donné jusqu'on n'a plus envie de vivre, hein, les personnes très angoissées. À un moment donné, elles peuvent dire, mais c'est dans une telle angoisse, j'ai juste plus envie de vivre. Donc ça peut aller très loin, ce sentiment d'angoisse. Et la réponse ici que découvre l'auteur inconnu de ce psaume, c'est que l'Éternel conduit sur un chemin de vie celui qui crie à lui. L'Éternel nous conduit sur chemin de vie, donc c'est un chemin de bénédiction, un chemin sur lequel nos besoins d'être humain qui ont été créés par Dieu. C'est Jésus qui a dit, hein, dans ce passage, dans Jean 6, 35, « Celui, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. » Jamais soif. Donc la première perle ici que j'ai envie de vous laisser, c'est comment se décline et se manifeste la bonté de Dieu dans notre vie à travers Jésus. C'est ce pain de vie. On partagera aussi tout à l'heure la Sainte Cène qui nous rappelle aussi que Jésus est ce pain de vie. et que Jésus, ce pain de vie, veut combler nos besoins humains. J'ai envie de dire vraiment humains. Hein. Dieu nous a créés humains avec des besoins. Ils ne sont pas que d'ordre spirituel, mais ils ont c'est des besoins réels qu'on a. Et Dieu souhaite aussi qu'on soit comblés dans nos besoins. Alors prenons le prochain chant et accueillons Jésus, sa présence, hein, qui est tellement précieuse dans chacune de nos circonstances, de nos vies. Et c'est un chant qui a été écrit, je savais que c'était un missionnaire, mais j'ai découvert que c'était un Genevois qui a écrit ce chant. Auguste Glardon, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un missionnaire Genevois qui a vécu milieu du 19e, début du 20e siècle, et il était parti aux Indes. Et ce chant, hein, qui a des paroles très fortes, ce n'est pas des paroles qu'il a inventées devant qu'il a imaginées, mais c'est vraiment des situations dans lesquelles il a vécu, des moments difficiles, et il pouvait dire... J'ai soif de ta présence. C'est la présence de Jésus qui peut me donner à un moment donné de la sécurité, qui peut me donner peut-être une protection, tout ce qu'on a besoin, c'est la présence de Jésus. Donc on va prendre ce chant, j'ai soif de ta présence, dans une version, pas la version originale, une version un petit peu revisitée. J'ai soif de ta présence.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nom. Je sens toi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, de ma jour d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais.
Jésus, pour ta présence. Amen. Alléluia. Amen.
L'acte 2, versets 10 à 16. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. On parle ici de prison, on parle de liens, de chaînes. Et j'imaginais un peu les prisonniers aujourd'hui. Hein. Pourquoi on met les personnes en prison? En général, ils ont fait quelque chose qui allait à l'encontre de la loi. Ils ont fait quelque chose qui méritait d'être en prison. Ici, on parle les personnes se sont révoltées contre les paroles de Dieu, ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. Et quel est le but d'un passage en prison? En principe, c'est de subir les conséquences de ses actes, reconnaître son erreur et ne plus recommencer. C'est en tout cas le but souhaité des prisons. C'est quelqu'un qui y passe, c'est qu'à un moment donné, il ressorte et il puisse aussi changer. Il puisse aussi ne plus recommencer et aussi recommencer aussi une vie. Et avec Dieu, je vois un peu la libération qu'on peut avoir avec Dieu, la liberté, cette bonté qui libère. Il y a d'une part, je vois un peu deux manières de la comprendre. D'une part, notre nouvelle naissance, notre conversion, c'est devenir libre d'une condamnation à une mort inéluctable vers la liberté d'enfant de Dieu. Dieu nous accorde cette liberté d'enfant de Dieu, que Dieu a pardonné, que Dieu veut voir libre, car on n'est plus coupable devant Dieu. Quand on croit en Jésus, il n'y a plus de culpabilité. Il nous a dit qu'on est justifié. Dieu nous voit juste. Et si on est là ce soir, finalement, c'est parce que nous avons tous réalisé, ou je l'espère du moins, que Jésus est celui qui nous a justifiés, qui nous libère. Libère d'une mort éternelle, absente de sa présence, vers une mort éternelle, glorieuse dans sa présence. Mais en même temps, il y a aussi l'œuvre de libération qui est aussi un processus dans nos vies. À nos choix, ici on parle de révolte contre Dieu, de mépris des conseils de Dieu, ou parfois nos héritages qu'on peut avoir, familiaux, des héritages et aussi des circonstances de la vie, nous rendent aussi prisonniers de nos ténèbres. Et pour cela, le message de ce texte est un espoir que Dieu, au travers de Jésus, peut nous rendre libres grâce à lui. Mon attention, elle s'est focusé sur ce verset 12 qui dit « Il a humilié le cœur par la souffrance ». Je me suis dit « Vraiment, Dieu nous humilie ? Est-il si cruel ?» Eh bien, je dis non, Dieu ne nous humilie pas. Par contre, je vois le sens humilié dans le sens pas de ridiculiser. Mais dans le mot « humilier », il y a le mot « humus », il y a le mot « terre ». Dieu veut nous rendre comme de l'humus, Dieu veut nous rendre notre cœur prêt finalement à être une terre dans laquelle des graines sont semées, dans laquelle des graines grandissent, qu'on commence de porter du fruit. Et je comprends dans ce sens-là. Donc si on vit des temps de souffrance, qui sont des temps difficiles, qui sont des temps d'effrance, on dit « mais pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai ça ?» Eh bien, je le comprends que c'est le Seigneur si permet ça. S'il y a des temps de souffrance qui font partie aussi de la vie, eh bien c'est pour nous, humification, c'est juste humifier, donc c'est rendre un humus, que notre terre finalement, dans ce temps de souffrance, puisse commencer à réfléchir, commencer à dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être qu'il y a, je sais pas, un pardon à demander, peut-être qu'il y a des circonstances qu'il faut, il peut y avoir plein de choses, mais qui nous fassent avancer à un moment donné. La souffrance peut être des fois quelque chose qui nous bloque. On est juste victime de la souffrance. Elle est difficile, mais on est des fois juste bloqué dans la souffrance. Et Dieu nous permet aussi de sortir de ce blocage pour qu'on développe qu'on grandisse. Et ici, à nouveau, hein, c'est pour la deuxième fois dans ce psaume, nous pouvons crier à l'Éternel. Aller avec lui à ce qui nous enferme, aller avec lui à ce qui nous enferme et qui nous angoisse. Et prier aussi respectivement, agir pour que la bonté de Dieu se manifeste par des libérations. Et c'est un chemin sur lequel Dieu agit avec nous, car comme l'enfermement nous a modelés, la liberté est aussi un apprentissage qui nous modèle. C'est un apprentissage de vivre libre. Et je pense, je n'ai jamais discuté personnellement avec un prisonnier qui sort de prison, mais il doit apprendre à vivre libre. Et parfois, quand Dieu nous libère, ça peut être des libérations, ça peut être des libérations peut-être de liens aussi spirituels, mais ça peut aussi être des guérisons, une libération sous forme de guérison miraculeuse. Il y a un chemin d'apprentissage dans la liberté. Donc c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, sachant que notre liberté ici-bas, quand Dieu nous libère, eh bien, la liberté totale, l'absence de souffrance, elle ne sera pas sur cette terre, elle sera une fois que Jésus sera revenu, quand on sera avec lui dans la gloire. Là, la liberté complète, pleine d'enfants de Dieu, on la vivra pleinement. On est dans le premier dimanche de l'Avent, d'où la bougie qui brûle, la première bougie devant moi et devant vous. Et ça veut signifier aussi qu'on commence de nous rappeler la venue de Jésus à Noël. Et c'est le but de sa venue que nous lisons dans Matthieu 4, verset 16. Reprend, c'est une citation de l'Ancien Testament d'Ésaïe qui dit « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, comme dans le passage de Psaume, on parle de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Voilà une deuxième perle, comment se manifeste la bonté de Dieu dans notre vie, à travers Jésus qui nous libère de notre passé et qui, par sa lumière, vient éclairer nos ténèbres qui nous rendent aussi, je cite, de ce verset, prisonniers de la misère et des chaînes. Alors prenons ce troisième chant pour illustrer ce passage et pour entrer dans ce que Jésus veut aussi nous faire vivre ce soir, proclamer que Jésus est venu pour nous apporter la lumière. Christ est la lumière.
Tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble, victoire, Christ est la lumière.
arrivons à l'acte 3, la bonté qui guérit. Nous allons relire les versets 17 à 22. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Les fous, c'est qui les fous? Hein, c'est qui les fous? On n'est pas des fois, nous, un peu fous, je ne sais pas. On est tous un peu à côté fous, des fois. Hein. Je pense qu'on a des fois un peu des projets fous aussi. Des projets de folie qui peuvent nous mener, ici, il a dit, jusqu'aux portes de la mort. On peut faire des choses tellement folles qu'on prend des risques énormes et qu'on prend aussi, qu'on joue peut-être des fois avec la mort aussi. Mais ici, c'est dit que les fous hein, aussi, donc ça peut être nous, mais ça peut aussi être des fous qui sont peut-être fous dans le sens, qui n'ont pas encore reconnu que Dieu existe. Ça peut aussi être une forme de folie de dire, ben, Dieu n'existe pas. Est-ce que les athées sont des fous? Oui ou non? Oui. J'ai une fois te dire, les athées étaient très croyants. Il fallait beaucoup de foi pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, ils n'ont peut-être pas si fous que ça. ils ont peut-être simplement une foi qui n'est pas à la bonne place. Ils ont une foi en quelque chose qui est juste difficile à considérer qu'il n'y a pas de Dieu. En tout cas, moi, j'ai l'impression que, ouais, que c'est juste difficile. C'est comme s'il y a une espèce de choix à faire à un moment donné qui dit « je ne veux pas croire que Dieu existe ». Donc il y a une volonté, il y a aussi une foi de dire « je choisis de croire que Dieu n'existe pas ». C'est un choix. Mais j'ai aussi entendu parler des athées qui ont vite changé aussi. Ils ont la foi à croire, mais c'est peut-être les mêmes qui ont aussi à un moment donné la foi à croire que Dieu existe. Donc là aussi, hein, pour la troisième fois, ces fous ont crié à l'Éternel qui les a délivrés de leurs angoisses. Et comment l'Éternel a agi ici? Il a envoyé sa parole et les a guéris. La parole de Dieu qui guérit en premier notre cœur, notre âme et parfois aussi notre corps. Il y a quand j'ai choisi ce texte, le psaume 100, même tout à coup à l'esprit en le lisant, j'ai dit, mais ça c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un message, du prochain message. Puis j'en ai parlé à Catherine, puis elle me dit « Ah, mais ça, c'est le psaume des semaines Parole et guérison ». J'ai dit « Ah bon ?» Donc, ils ont des semaines à Saint-Loup qui s'appellent Parole et guérison, où ils ont des gens qui viennent pendant une semaine, qui cherchent à vivre des guérisons dans leur vie, de tout ordre, et ils utilisent la parole, ils ont des entretiens, ils lisent la parole avec eux, donc que la parole puisse guérir des personnes. Et c'est vrai que la parole est puissante. La parole est puissante et puis elle peut guérir. Et c'est ce que nous croyons aussi ce soir. Et je pense aussi que ce soir, on va prendre un chant qui parle de guérison tout à l'heure. Je pense que Dieu peut vous guérir. Dieu peut nous guérir. Alors, il guérit d'abord le cœur, hein, le cœur qui est blessé, peut-être le cœur qui a de la peine à aimer, le cœur qui a été frustré ou que tout ce que notre cœur peut avoir de lourd à porter. Mais Dieu peut aller jusqu'à guérir aussi nos corps. C'est ce qu'il fait aussi. Lorsque nous sentons la guérison dans notre vie, comme nous l'avons lu ici, ça apporte de la joie, de la reconnaissance. Et c'est pour cela que nous sommes appelés souvent aussi à offrir des sacrifices de reconnaissance, que nous voulons raconter la façon d'agir de Dieu avec des cris de joie. Et comment se décline ici la manifestation de la bonté de Dieu, c'est cette troisième perle, à travers Jésus qui nous guérit et qui nous restaure par sa parole. Il est la parole Jésus, il a créé l'univers et tout ce qu'il contient, mais il a aussi dit que lui-même, il est la parole qui rachète et qui guérit sa création. Et c'est ce que nous voulons demander ce soir ensemble à Dieu, la guérison sur nos vies, sur nos familles. Et qu'on puisse aussi, le refrain dit « Abba Père ». Et la guérison peut parfois être d'être pris dans les bras de quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, pas trop. Je ne suis pas forcément quelqu'un très tactile dans mon langage de l'amour. Mais je sais que des personnes ont besoin de ça. Simplement, des fois, de serrer dans les bras, ça a un effet de guérison. Il y a l'effet purement contact. Mais si c'est Dieu qui nous prend dans ses bras, et c'est ce que je nous souhaite, ce Dieu présent par son esprit, il est capable de nous faire sentir sa présence et de nous prendre aussi dans ses bras et de nous guérir. Alors prenons ce chant, la guérison. Faire un acte physique par rapport à ça. Si vous avez un endroit peut-être qui vous fait souffrir, ça peut être le cœur, ça peut être un endroit, posez simplement votre autre main dessus et dites: Seigneur, j'ai besoin d'être guéri là. Vous la posez. S'il n'y a rien, levez les bras simplement d'accueillir la présence de Dieu qui veut toucher le cœur. Quand on ouvre les bras, c'est comme si on s'ouvrait au Seigneur et lui dire: mais mon être entier a besoin d'être touché par toi. J'ai pas juste besoin d'une guérison au pouce ou je sais pas au genou. J'ai besoin d'une guérison du cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi faire, je crois, ce soir. Donc, mettez une main, incarnez la demande du Seigneur en posant votre main sur un endroit ou simplement en levant les bras vers le Seigneur.
Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants.
enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs, la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants. Chaque vie, chaque maison, prenons nos cœurs, la guérison. Oh, oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie, ouvre-lui nos pas. Abba, aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie, ouvre-lui nos pas. Abba, aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie, ouvre-lui nos pas.
Acte 4, la bonté qui apaise. Pour passer à la slide 7, la suivante. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. La mer était connue à l'époque et encore aujourd'hui pour ses dangers. Je pense aussi aujourd'hui à ces migrants qui quittent l'Afrique du Nord, qui traversent. Ils savent qu'il y a un danger, surtout quand c'est des embarcations de fortune, pour rejoindre le continent européen. Ils sont prêts à traverser les mers, à prendre des risques. Je ne vais pas faire un message sur la migration, mais de manière plus générale, ici, on lit ici comment Dieu agit dans l'action. Parfois, il permet des tempêtes dans nos vies, comme on l'a lit ici, c'est des tempêtes qui ont été provoquées par Dieu, qui nous agitent comme les vagues de la mer. Mais c'est aussi lui le premier qui apaise et qui aussi, pour la quatrième fois ici, répond au cri de détresse en arrêtant la tempête et en ramenant le calme. Le verset 28-27 a attiré aussi mon attention particulière. Il était dit « toute leur habileté », donc c'était des marins, je pense qu'ils savaient en principe ceux qui conduisent ces bateaux, c'était des marins professionnels habitués à naviguer. Il était dit « toute leur habileté était réduite à néant ». Toute leur habileté était réduite à néant. Et nous, quand nos capacités, notre expérience, nos compétences sont tout à coup réduites à néant, on a l'impression que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pensait savoir, tout ce qu'on maîtrise, c'est vraiment déstabilisant. Et ça peut effectivement, comme là, nous donner le vertige. On titube, on perd pied. Et la seule chose qui nous reste peut-être à faire, c'est de crier vers celui qui seul est vraiment capable de ramener le calme dans nos vies, des fois aussi. Quand on sort de nos gonds, quand on ne sait plus quoi faire, on se dit, mais alors je crie à l'Éternel et la paix revient et la sérénité revient. Donc notre manière de mettre nos dons, nos capacités à son service reviennent. Hein, ce n'est pas quelque chose qui disparaît en général, mais c'est comme si besoin parfois aussi de se dire, ben, quand on ne sait plus rien, on crie à Dieu. Et c'est lui qui nous fait comprendre aussi qu'il peut, au-dessus des circonstances, ramener la paix. Et Dieu non seulement ramène la paix et nous laisse flotter, entre guillemets, hein, il aurait pu dire pouf, la mer s'arrête et puis le bateau reste flotté sur les airs, flotté sur l'eau quelque part au large, mais il nous conduit au port désiré. Alors je me suis dit, désiré par qui ce port? C'est désiré par Dieu, désiré par le marin qui avait un cap bien clair. Et ici, j'ai plutôt l'impression, en tout cas c'est mon interprétation, que c'était plutôt le port désiré par ces marins. Ils allaient quelque part, hein, ils n'étaient pas juste faire... En général, les marins, ils ne vont pas juste faire un tour sur la mer, ils reviennent, mais ils ont un but. Donc ils avaient un objectif, une destination. Et que l'Éternel a permis que ces marins, finalement, atteignent leur destination, leur port désiré. Et quand la tempête surgit dans nos vies, abandonnons-nous notre destinée? Parfois c'est nécessaire, hein, c'est vrai. Parfois Dieu nous dit, mais attends, là tu pars dans une direction. Attends, il y a un autre cap. Hein. Parfois c'est nécessaire, mais parfois non, parce qu'elle est bonne. Dans notre foi avec le Seigneur, on dit de faire sa volonté, on cherche son chemin. Donc ce qui nous met à cœur, ben, c'est des bonnes destinations. Et puis on peut compter sur lui que si on n'y arrive pas, c'est pas parce que la destination est mauvaise, mais c'est qu'il y a juste une tempête entre deux qui nous fait dire, OK, ben, on la passe, le Seigneur est là, il nous rapaise et on continue. Gardez le cap. Et dans cet acte 4, nous lisons pour la première fois l'importance de proclamer la grandeur de Dieu dans l'assemblée du peuple. Vous avez retenu ça aussi, respectivement de le célébrer dans la réunion des anciens. Et ben, c'est aussi pour cela qu'on est là ce soir, tous ensemble. L'assemblée du peuple, on peut dire, c'est l'église de Versoix, c'est nous ici. Hein? Et les anciens, c'est qui? Ben, dans notre église, les anciens, c'est le conseil. On n'a pas d'anciens, on n'a pas deux catégories de responsables, c'est le conseil. Et on est tous là pour proclamer la grandeur de Dieu et le célébrer par nos chants. Donc voilà, cette quatrième perle et dernière perle, comment se décline et se manifeste la bonté de Dieu dans notre vie à travers Jésus qui, d'un seul mot, d'une seule parole, peut apaiser nos cœurs et ramener aussi de la sérénité dans nos vies et nous permettre de continuer de naviguer. Donc ensemble, adressons à Dieu ce chant en lui demandant sa paix dans nos vies, que sa paix puisse être là, nous accompagner, et la paix, retrouver le calme et la paix. On va prendre le chant, paix.
supplie. Dieu est Père, entends-moi. Mon espoir, ton esprit, je veux croire en tes voix. C'est en toi, tout en toi, que j'espère et que j'ai.
Dernière partie, c'est un peu une conclusion pour moi. À partir du verset 33, on va le relire. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux. Il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. La bénédiction, comme on l'a lu aussi dans ce passage, c'est un peu la conclusion ou plutôt la conséquence de l'action de Dieu dans nos vies. Une action qui est toujours fondée sur la bonté, donc sur l'amour de Dieu. Et s'il est bon, c'est pour qu'on fasse aussi quelque chose de bien, de juste, de droit, en un mot, de bénissant. Il y parle ici d'habiter dans un pays, de se multiplier, de travailler, de récolter toutes ces bénédictions. Dieu les souhaite aussi pour nous. Et non l'inverse, hein, comme on l'a aussi lu, avec des conséquences néfastes sur nous et notre entourage. Donc ce merveilleux psaume se termine par une invitation à être sage et à être attentif aux bontés de l'Éternel. La sagesse, on la puise dans notre relation avec Dieu, dans ce qu'on vit, mais aussi la source par excellence de la sagesse, c'est Dieu, qui nous aide aussi à faire les bons choix. Les bontés de l'Éternel sont nombreuses, le problème est souvent qu'on n'est pas attentif, respectivement, qu'on les oublie. Donc en conclusion, on est invité ce soir à crier à l'Éternel quand les angoisses nous envahissent, à attendre activement sa délivrance, puis à le louer pour sa bonté, pour sa merveille, comme il est dit à quatre reprises, pour s'émerveiller en faveur des hommes. Pourquoi crier à l'Éternel ? Il nous entend. Pourquoi faut-il crier à l'Éternel ? Il n'est pas sourd. Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'il est sourd, l'Éternel. Au contraire, il est très sensible et très attentif. Mais j'interprète ce cri comme l'effort nécessaire pour exprimer à Dieu nos poids, de difficultés qui peuvent être tellement pesantes qu'on n'arrive plus à voir la bonté de Dieu dans nos vies. Et c'est peut-être ça l'effort, le cri. Dire mais wow, ça me coûte, j'ai envie de... Et parfois des cris sortent naturellement, il faut les laisser sortir aussi. Des cris vraiment de désespoir aussi à Dieu. Ça peut être plusieurs choses. Mais toujours est-il, c'est quelque chose qui sort de nous, c'est un cri. C'est pas juste mental, c'est quelque chose que le psalmiste ici a réalisé. C'est en criant à l'Éternel que la délivrance est venue. Et c'est comme ça qu'il peut en conclure que la bonté de l'Éternel
qui veut louer la grandeur de la bonté de l'Éternel. En résumé, on peut mettre la dernière slide. Dieu nous libère de nos angoisses en comblant nos besoins d'être humains créés par lui, en libérant nos cœurs par sa lumière qui apporte de la lumière dans les ténèbres comme la venue de Jésus, en guérissant nos vies par sa parole et aussi en apaisant notre âme par sa présence en nous. Et on va terminer par un chant, « Compte les bienfaits de Dieu ». Les bienfaits de Dieu, c'est toutes les manières dont Dieu a manifesté sa bonté envers nous. Et c'est aussi un ancien chant qui a été un peu revisité par le groupe Héritage. « Compte les bienfaits de Dieu ».
Voilà, pendant qu'on chante, eh bien, on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, et puis en mettant notre offrande dans le sac, et ça fait partie de notre louange, de notre reconnaissance.